Chers frères et sœurs, cette messe du 17e dimanche du temps ordinaire, l'année B, c'est aussi la messe de clôture d'une semaine de retraite pour des familles sous le patronage de Saint-Louis et Zélie Martin. Ils sont présents. Et c'est aussi ce dimanche de la fête des grands-parents. Le pape François a offert une indulgence plénière pour les grands-parents, les grands malades, ceux qui les assistent, aux conditions ordinaires. C'est une grâce qu'il accorde sous la lumière des saints Anne et Joachim que nous avons fêté le 26 juillet. Eh bien, entrons dans cette célébration de l'Eucharistie où le Seigneur lui-même se donne en nourriture. C'est son plus grand don qu'il fait de lui-même pour nous faire participer à sa vie et à sa gloire. Eh bien, entrons dans la lumière du Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lecture du deuxième livre des Rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en plus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, je vois que vous chantez de bon cœur. Puisse-t-il en être ainsi tous les dimanches. Et la joie, ça dit quand même quelque chose du cœur, la profondeur du cœur. C'est un chant d'action de grâce, c'est sûr. Bien, merci à vous. Alors, n'hésitez pas, les murs ne tremblent pas encore. Tous ont les yeux levés vers toi, Seigneur, ils espèrent. En cette courte phrase du psalmiste, tout est dit de la prière. Les yeux sur toi, intensité du regard, ils espèrent, c'est la tension du cœur. Le regard et le cœur disent quelque chose de la qualité de la présence, de la confiance. N'est-ce pas ce qui a habité ce temps fort des familles jeunes de la session Marie-Espérance cette semaine, placée sous le patronage des Saint-Louis et Zélie Martin? Puisque nous sommes tournés vers le Seigneur, réellement présent, au fond, qu'avons-nous reçu? Qu'espérons-nous encore? Que nous offre-t-il en partage? Je pense qu'il est assez aisé de le discerner dans l'évangile de ce jour, d'autant plus que par un fait exceptionnel, la scène de la multiplication des pains est racontée par les 4 évangélistes.
Il y a d'abord le souci pour le Seigneur d'une rencontre avec des familles et de toute personne désireuse de le voir, peut-être de l'écouter. Une rencontre à l'écart de l'agitation du monde en prenant de la hauteur sur un endroit élevé propice à la réflexion, à l'échange, la détente et le repos, et peut-être, bien sûr, avec le cri joyeux des enfants. C'est leur louange. Et si nous levons les yeux vers le Seigneur, lui, il attend ce regard. Jésus leva les yeux et vit une foule nombreuse venir à lui. Les yeux dans les yeux. Voilà la rencontre avec Dieu. Et que se passe-t-il? Il n'y a pas de mots pour le dire. Il voit et il sait. Et que sait-il et que voit-il? Il connaît notre attente, notre désir, notre faim de pain, de consolation, de réjouissance. Il voit et il connaît nos besoins. Nos désirs et nos besoins tournés vers le Seigneur sont notre espérance. Sur la montagne de Palestine, cette foule assoiffée de divertissement, car à la vue des miracles, et affamée de nourriture, en quête d'une vie heureuse et de l'attente d'un sauveur, cette foule espère, les yeux tournés vers le Seigneur. Ils ont faim et ils n'ont rien. La Samaraine, elle avait soif d'amour et d'eau fraîche. Le Seigneur lui va orienter le désir vers son désir à lui, son attente, dans un dialogue, une relation, par une question à ses disciples. Où allons-nous acheter des pains pour combler votre faim? C'est-à-dire, connaissez-vous des moyens humains qui puissent vous satisfaire dans cet endroit désert? Ou encore, me considérez-vous comme un messie humain? Voilà la question. La confiance avec le Seigneur passe par la vérité du cœur. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins, le cœur dans ses désirs et les reins dans leurs nécessités. Philippe, pris au dépourvu, comme ce serviteur d'Élisée d'ailleurs, dans cette situation d'une foule qui a faim, ne peut concevoir de solution autre que monétaire et mathématique. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. C'est exactement la logique de notre monde. La logique des pays dominateurs afin de nourrir des peuples réduits à la famine par les guerres et l'appât du gain. Pour Jésus, cette voie de solution n'en est pas une. Elle ne ferait que maintenir la servitude et l'humiliation des populations auxquelles on distribue généreusement leur ration quotidienne strictement calculée. Et le Seigneur nous demande de considérer les dons que nous avons reçus. Car c'est à partir du don d'un enfant, 5 pains et 2 poissons, des pains d'orge, c'est le pain des pauvres. C'est bien peu, certes, mais c'est tout pour cet enfant, et c'est de ce peu que le Seigneur opère le miracle. Le miracle se fait dans le partage, pas dans le calcul. L'offrande de cet enfant est à l'origine de notre offertoire, et de ce peu le Seigneur le multiplie. La bénédiction, c'est-à-dire le don, est au-delà de toute espérance et ouvre à l'action de grâce. Au fond, connaissons-nous vraiment le Seigneur? Car qu'il s'agisse d'une foule ou d'une personne, réalisons-nous que c'est de sa part la même prévenance, la même délicatesse. Le Seigneur donne son temps, il accorde audience et bienfaisance. Faites-les asseoir, dit-il. Et c'est bien la disposition que nous occupons en ce moment. Il leur accorde la nourriture,
qu'elles soient matérielles ou spirituelles, l'une et l'autre, autant qu'ils en désireront, autant qu'ils seront disposés à accueillir. Rien ne sera perdu, mais ce n'est qu'un signe. Nous levons les yeux vers le Seigneur, en lui nous espérons. Et que recevons-nous de durable, de profitable à l'âme et au corps? Est-ce autre chose que le mystère du Christ vivant en chacun de nous, que nous ne pouvons ni quantifier ni qualifier? Jésus s'est fait pain de vie pour satisfaire notre faim de Dieu, car notre âme a faim, faim de Dieu, comme notre organisme naturel a faim de nourriture terrestre. Et à quoi cela nous engage-t-il? Nous demandons au Seigneur dans la prière d'ouverture de multiplier pour nous les gestes de miséricorde afin de nous attacher au bien qui demeure, bien que l'on reçoit comme un don. Et saint Paul nous en décrit l'enjeu. Si les chrétiens sont tous ensemble un seul corps et un seul esprit, ne le doivent-ils pas à la mendication d'une même Eucharistie? C'est ce que nous répétons dans chaque prière eucharistique. Et qu'est-ce que l'Eucharistie opère, si ce n'est la vie dont le bienfait l'unité et la charité? L'unité d'esprit et la paix, l'idéal d'union dans la charité. Union, j'allais dire communion, communus, pas comme une union, mais communus, ensemble. Et quel chemin saint Paul nous propose-t-il pour vivre l'espérance, la communion au Christ, pour nous libérer de nos entraves, de nos replis sur nous-mêmes? Et saint Paul, très concret, nous propose trois terrains d'expérimentation, trois vertus, si vous voulez. L'humilité. Et qui peut se dire humble? La douceur est-elle notre seconde nature? La patience. Que vaut ma patience dans la tempête? Suis-je mon propre étalon dans la construction de l'unité de la communion? Pouvons-nous dire en vérité, les yeux tournés vers toi, Seigneur, nous t'espérons, tu es notre vie. Les yeux tournés vers toi, Seigneur, qui t'es humilié pour nous. Sans l'humilité, comment pourrions-nous comprendre et vénérer le Seigneur qui s'est chosifié dans l'Eucharistie et abaissé dans le petit? Notre attitude devant l'Eucharistie témoigne de la qualité de notre âme et de notre foi. Avec l'humilité, saint Paul exhorte à la douceur, vertu que Don Bosco conseillait souvent aux éducateurs, car elle demande vraiment la maîtrise de soi, véritable ascèse. Nos enfants sont nos maîtres éducateurs dans ce sens. Et le Seigneur lui-même nous l'a prescrit comme deuxième béatitude, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Et la patience. Y a-t-il plus patient que Dieu? Pour lui, un jour est comme 1000 ans. Dans nos impatiences quotidiennes, contemplons la grande patience du Seigneur. La patience de Dieu a pour nom miséricorde. La patience chrétienne doit prendre cette couleur de l'espérance. La douceur et l'humilité du cœur de Dieu se révèlent dans la patience et la miséricorde. L'humilité nous qualifie. La douceur et la patience qualifient nos relations. Ces trois vertus sont l'expression de la charité qui fonde l'âme de l'unité. Tout cela est possible grâce au baptême, la confirmation, car nous sommes le corps du Christ par l'action de l'Esprit-Saint. Pour saint Paul, c'est si important qu'il cite les trois personnes de la très sainte Trinité dans l'ordre de notre remontée à Dieu. Un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. C'est du Père que tout provient et au Père que tout aboutit. Oui, tous nous levons les yeux vers le Seigneur, en lui nous espérons. Eh bien, avec Marie et Saint Joseph, nos modèles d'humilité, de douceur, de patience,
sur le même chemin de sainteté que Louis et Zélie Martin, rendons grâce au Seigneur, car il se fait proche de ceux qui l'invoquent et il comble de sa bonté tous ceux qui vivent. Amen.